thématique ce matin. Je partage la parole avec vous quelques instants et ensuite nous procéderons au service du repas du Seigneur. Nous partagerons le pain et le fruit de la vigne. Et bien sûr, on aura encore tout le temps de chanter, de glorifier le Seigneur avec chacun avec nos mots. Mais on va méditer la parole de Dieu ensemble. Voici ce que j'ai sur le cœur ce matin dans cette thématique. Vous pouvez déjà ouvrir avec moi l'épître de Paul aux Philippiens si vous voulez bien. Je vous fais gagner un peu de temps. Épître de Paul aux Philippiens au chapitre 1er. Dans notre thématique, une église selon le cœur de Dieu, nous voulons, en reconsidérant les différentes facettes de l'église, nous voulons construire une vision dans nos cœurs, une vision spirituelle premièrement de l'église, une vision qui soit solide et qui soit surtout pérenne. Et j'insiste, c'est difficile, mais par la grâce de Dieu et par la parole, c'est possible, une église indestructible, une église invulnérable. Nous avons abordé, nous avons considéré ensemble l'origine miraculeuse de l'Église, nous avons considéré la composition miraculeuse de l'Église, et puis nous avons commencé à considérer déjà quels sont, on est arrivé au point de l'unité de l'Église la semaine dernière, et nous avons considéré, je réinsiste un tout petit peu là-dessus, ça va me servir de fondement pour aller plus loin, nous avons insisté sur le fait que le fondement de l'unité ne dépend pas de nos affinités, de nos amitiés, de nos estimations des uns, des autres, etc. Le fondement de l'Église, le fondement de l'unité sont des points spirituels et uniquement spirituels qui sont notre socle commun, des points qui vont transcender tout ce qui est humain, terrestre, charnel, qui doit disparaître. Nous avons ce privilège immense, vous comme moi, d'avoir été sauvés. C'est notre socle commun. Tous pécheurs, nous savons tous d'où nous venons. Nous avons tous eu la même grâce, même médiateur, le même sang, le même Seigneur, la même foi, le même baptême, le même Père, la même espérance, un seul et même esprit, le même ciel d'où nous attendons le même Seigneur. Nous avons le même ennemi clairement identifié, etc. Nous avons donc ici des points spirituels qui transcendent tout le reste, qui transcendent nos différences humaines. Et ce sont ces points, bien-aimés, comme nous l'avons vu, que nous devons considérer et que nous ne devons jamais perdre de vue. Parce que quand on perd ça de vue, c'est là que d'autres choses commencent à s'immiscer dans l'Église. Nous avons aussi, c'est très important, considéré la semaine dernière. L'unité, ça va plus loin qu'un fondement. Une fois qu'on a un bon fondement, il faut construire. On a commencé aussi à construire la pensée de l'unité la semaine dernière et on a vu que l'unité, ce qu'elle n'est pas, bien sûr, on a vu que l'unité ne peut absolument pas être de l'uniformité. Tout est sur le site internet. Ça ne peut pas être du conformisme, c'est-à-dire du traditionnalisme et surtout pas de l'œcuménisme. Je ne résume pas ça. Tout est sur le site, vous le retrouverez, mais c'est très important d'être conscient de ces pseudo-unités qui sont charnelles et qui sont vouées à l'échec. L'unité, on l'a vu, c'est être un. Le chiffre de l'Église, c'est pas est-ce que vous êtes 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500. Le chiffre de l'Église, c'est un. Qu'une Église soit 50 membres ou 5000 membres, de toute façon, mon corps a des centaines de membres différents, mais je n'ai qu'un seul corps et l'Église, quel que soit le nombre de ses membres, logiquement, toutes les églises devraient pouvoir dire, quand on leur demande « Vous êtes combien dans votre église ?» Tout le monde devrait pouvoir répondre « Mais nous, ben on est un. » Parce que c'est le chiffre de l'Église, c'est le chiffre du Dieu trinitaire, c'est le chiffre de la parole que le Saint-Esprit nous a laissée et c'est le chiffre du corps, une multitude de membres, mais un seul corps, tout est sur le site internet. Là encore. Et puis, on a été encore un peu plus loin parce qu'on a bien considéré la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, que l'unité, ce n'est pas seulement un rassemblement physique. Il ne s'agit pas de prendre seulement des membres différents et de les placer dans un même corps. Il va y avoir des liens. Dans mon corps, il y a des terminaisons nerveuses, il y a des ligaments, il y a différentes choses qui vont permettre justement aux membres d'être en plein accord et parfaitement coordonnés pour que tout puisse avoir un sens, le sens que Dieu veut lui donner. Et nous avons vu que bien sûr, ça va plus loin qu'un simple rassemblement physique, puisqu'en réalité, on s'aperçoit à partir du moment où les disciples ont mordu la poussière quand ils ont été dans l'échec après leur reniement, parce que tous, ils ont renié le Seigneur, tous, pardonnez-moi, se sont lamentablement plantés, alors que tous pensaient qu'ils avaient un certain niveau, mais Jésus a permis qu'ils se plantent parce qu'il fallait que leurs yeux s'ouvrent, c'est pas qu'il les aimait pas, mais le problème c'est qu'ils pensaient qu'ils étaient capables. Et ce qui a été salutaire pour eux, c'est le jour où ils ont compris qu'ils n'étaient pas capables, qu'ils n'y arriveraient pas sans la puissance du Saint-Esprit, et que surtout, Jacques a compris qu'il avait besoin de Pierre. Jean a compris qu'il avait besoin de Nathanaël. Nathanaël a compris qu'il avait besoin d'André. Et le jour où ils ont compris ça, c'est ce qui a été révolutionnaire et qui a amené ensuite l'effusion de l'Esprit. La clé, elle est là. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. C'est la première fois dans l'histoire du discipulat qu'on voit les disciples. Un. Ok ? Amen ? Et puis, on les voit ensuite à la Pentecôte. Ils n'étaient pas tous dans le même lieu. Mais non, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Parce qu'il y avait une dimension corporelle, mais il y avait surtout la dimension spirituelle. Et puis, après la Pentecôte, quand l'Église se répand, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, parce que le chiffre de l'Église restera toujours un. Et j'ai terminé la semaine dernière en vous citant, je n'ai que cité, mais ça m'a beaucoup travaillé cette semaine, ils étaient un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, dans ce passage de Philippiens 2. Et je veux partager avec vous ce matin un autre message, toujours sur l'unité, que j'ai intitulé ainsi, l'humilité, clé de voûte de l'unité. Et on lit ensemble dans Philippiens chapitre 1er, s'il vous plaît. J'ai failli passer à autre chose, mais le Seigneur m'a beaucoup travaillé cette semaine avec ce texte, alors je veux vous partager le fruit de cette méditation. Philippiens chapitre 1er, verset 27. « Seulement, dit Paul, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Ça, on aime moins, pourtant c'est une réalité spirituelle de la parole. Vous soutenez le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez, que je soutiens encore. Ici, Paul fait référence évidemment à ses liens dans la prison de Rome, c'est de là qu'il écrit l'épître aux Philippiens. Si donc, on est au chapitre 2, verset 1er, si donc, ou alors puisque, puisqu'il y a quelques consolations en Christ, puisqu'il y a des soulagements dans l'amour, puisqu'il y a de la communion d'esprit, puisqu'il y a de la compassion, de la miséricorde, rendez donc ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Mais là, je vois que l'apôtre Paul, comme d'habitude, a mis la barre très très haut. Et je me dis, comment on va faire ça? Mais Paul répond, voilà comment on va faire ça. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Là encore, Paul prend la barre et je regarde la barre, comme vous. Personne ne va dire « non, c'est pas vrai, je sais que c'est vrai », mais je me dis « waouh ». on fait ça comment ? Paul me montre, il me dit comment on va faire. C'est simplement de considérer et de calquer nos vies sur le modèle suprême. Jésus-Christ, existant, verset 6, en forme de Dieu, lui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il est en train de dire, regardez son exemple. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Paul présente ici pour les Philippiens l'humilité, l'exemple de Jésus comme clé de voûte de l'unité. La clé de voûte, c'est quoi ? Dans un édifice, dans un bâtiment, en architecture, la clé de voûte, c'est ce qui va tenir l'ensemble. Il y a des fondations, il y a des murs, c'est normal, on construit. Mais ensuite, il y a une clé de voûte. Et la clé de voûte, c'est ce qui va permettre que l'ensemble ne s'effondre pas. Et l'apôtre Paul va présenter ici l'humilité, l'exemple de Jésus à reproduire pour s'assurer non pas que l'unité soit constituée, parce qu'elle est déjà constituée, mais pour s'assurer que l'unité puisse être pérenne et qu'elle ne s'effondre pas dans les églises, et notamment à Philippe. Le contexte des Philippiens, comme n'importe quel contexte d'église, n'est pas idéal. Il n'y a jamais d'église pour qui c'est tout beau, tout rose. Ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, on l'a lu, chapitre 1, verset 28, Paul ne s'étend pas, mais ils ont de la pression à l'extérieur, il y a des adversaires, ils ont forcément des menaces, des formes de pression, c'est normal, qui n'en a pas. Et puis ils sont confrontés aussi à de mauvais ouvriers, à des faux circoncis, chapitre 3, verset 2. Et on voit quand même ce contexte-là qui doit être quand même un petit peu compliqué pour l'église de Philippe. Mais il n'y a pas que des problèmes à l'extérieur, la toile de fond. Le contexte réel, la toile de fond de ce chapitre, de cet épître aux Philippiens, c'est qu'il y a un conflit dans l'Église. Il y a, chapitre 4, il y a Évodie et Saint-Tiche. Il y a deux personnes, c'est pas parce que ce sont des femmes, ça aurait été des hommes, c'était pareil. Il y a deux personnes, Évodie et Saint-Tiche, qui, quand on considère l'ensemble de l'épître, non pas, je vous ai mis chapitre 4, versets 2 et 3, n'ont pas un problème doctrinal. Je vous ai dit, il ne peut pas y avoir d'unité en dehors du fondement de la saine doctrine. La doctrine est le fondement non négociable de l'unité. Ça, on n'y touche pas. Il n'y a pas de problème de doctrine, parce que sinon, Paul serait intervenu comme dans toutes ses épîtres. Chaque fois qu'il y avait un égarement, une dérive doctrinale, Paul intervenait et il recadrait les choses. Mais là, en réalité, il ne recadre rien de façon doctrinale. D'ailleurs, l'épître aux Philippiens est une épître très, très, très pratico-pratique, avec beaucoup de joie, beaucoup d'exhortations, de choses quotidiennes pratiques au niveau de la vie du croyant. Mais en réalité, il n'y a pas de développé théologique, sauf cette perle extraordinaire qu'est l'abaissement de Christ, Philippiens 2, et tout le reste, ils n'en parlent pas parce qu'à Philippe, ils n'ont pas de problèmes doctrinaux. Évodie et Saint-Tiche n'ont pas de problèmes doctrinaux, donc ils ont juste besoin qu'on leur repeigne le modèle suprême de Jésus, parce que le problème n'est pas un problème doctrinal, le problème c'est un conflit de personnalité. Ce sont deux personnes qui toutes les deux ont combattu pour la foi de l'Évangile, mais qui ont des tempéraments, des personnalités un peu trop fortes. Et malheureusement, mais ça n'arrive que dans l'église de Philippe, jamais dans les églises en France, ça n'arrive jamais ailleurs. Et dans l'église de Philippe, les disciples ont eu la mauvaise idée, mais la mauvaise idée de prendre parti pour Évodie ou pour Saint-Tiche. Et l'église, les membres de l'église, ont commencé à prendre parti. Manquant de sagesse, ils ont pris parti, ça prend des proportions, et finalement l'Église, qui était unie, finit par être menacée d'implosion. Vous savez, bien-aimé, je l'avais dit, je le redirai plusieurs fois, il n'y a rien de pire que les guerres intestines, que les guerres internes, que les guerres fratricides. Il n'y a rien de pire que ça. Dans l'histoire de l'Église, depuis la Pentecôte, dans l'histoire de l'Église, bien-aimé, il n'y a jamais eu autant de dégâts que par la langue, que par les conflits, que par les rivalités, que par les divisions, etc., etc., etc. Les divisions, les guerres intestines ont fait beaucoup plus de dégâts dans l'Église, dans les Églises, que la persécution, l'adversité, que etc., etc., etc. Jésus a été clair. Paul le sait, et c'est ça sa préoccupation majeure. Jésus a été clair, une maison divisée contre elle-même ne pourra pas subsister. Une phrase, c'est clair, c'est net, c'est précis. Une maison, c'est valable pour mon couple, c'est valable pour ma famille, c'est valable pour mon église, c'est valable pour une union d'église. Une maison divisée contre elle-même ne pourra jamais subsister. On a vu la semaine dernière, en parlant de l'unité, que dans Jean 17, Jésus, alors qu'il est sur le point d'aller à la croix, de faire son œuvre de salut, de résurrection, etc., juste les quelques jours avant, Jésus a cette préoccupation majeure dans sa prière sacerdotale, Jean 17. Jésus prie pour l'unité de son Église. C'est ce qu'il y a de plus important. Paul sait pertinemment que c'est important. Et il sent qu'il y a ce danger dans l'Église de Philippe. L'unité est menacée. Je veux insister, bien-aimé, sur quelque chose avant d'aller plus loin. Sur la base des points communs que nous avons développés, je veux insister pour que ce soit bien clair dans nos esprits, l'unité est réalisée. Nous sommes unis. Nous sommes un. Nous avons le fondement. Nous n'avons rien à réaliser, nous n'avons rien à construire. Le Seigneur à la croix a payé le prix pour l'existence de son Église et l'unité de son Église. Jésus a prié, et croyez-moi, il n'y a aucune prière de Jésus qui est à côté de la plaque. Il n'y a aucune prière de Jésus qui ne soit pas exaucée. Et derrière sa prière, pour l'unité de l'Église, il a payé le prix fort pour que l'Église naisse et qu'elle soit unie. Et par conséquent, l'Église est unie. Et la responsabilité, on le développe là tout à l'heure encore ensemble, mais dans la pensée de Paul, la responsabilité de l'Église, ce n'est pas que les membres de l'Église s'unissent, c'est que les membres chassent de leur cœur ce qui va être objet de division, ce qui va rompre l'unité. Et vous savez, il y avait ce... J'ai repensé à ça ce matin. Ils sont où les frères qui font les chants? Merci les frères. En presque un an, vous n'avez jamais fait chanter ça. Continuez, ne faites jamais chanter ce chant. Quand on était un petit peu plus jeune, pour ceux qui étaient un peu plus vieux dans les églises comme moi, on avait un vieux chant qui disait « Père, unis-nous tous, Père, unis-nous tous ». C'était plein de bons sentiments, c'était pas mal comme chant. Mais pardon, mais c'était tellement à côté de la plaque. Nous sommes unis. Et je ne vais pas dire au Seigneur « Père, unis-nous tous ». Je voudrais que quelqu'un compose un chant qui dise « Père, donne-nous la sagesse de ne rien laisser nous diviser. » Verset strophe 2, donne-nous la sagesse à vos plumes, les musiciens. Donne-nous l'intelligence de ne pas laisser des choses briser l'unité que tu nous as acquise. Parce que l'unité à la croix, elle est faite. Elle est réalisée. Et Paul le sait, et c'est pour ça qu'il dit, ne faites rien par esprit de parti, ne faites rien par vaine gloire, parce que ces choses-là, ce sont des ennemis spirituels qui viennent, et la pensée de Paul, c'est de évincer ce qui va empêcher l'unité d'être maintenue, parce que l'unité, elle existe. Mais le problème, c'est quand on ne fait pas attention, puis un jour, on dit, ah ben, faudrait peut-être qu'on s'unisse, alors on va composer un chant, Père, unis-nous tous. Mais non, c'est pas ça, c'est l'inverse. La préoccupation majeure de Paul, c'est de maintenir l'unité de l'Église qui est sérieusement menacée à cause du conflit entre Évodie et Saint-Tiche. Et il va présenter l'humilité de Jésus comme exemple suprême pour que les disciples, calquant leur vie sur ce modèle, puissent préserver l'unité de l'Église. Parce que C'est par le sacrifice, par l'œuvre de Jésus que l'unité a été réalisée. C'est par l'humilité des membres de l'Église et leur façon de vivre que l'unité va être préservée. Jésus a construit l'unité. Nous avons la responsabilité de préserver l'unité. C'est ça le truc. La préoccupation de Paul au sujet des disciples, vous lisez les épîtres, ce n'est pas ce qu'ils possèdent, ce n'est pas l'adversité, les difficultés. Il leur dit, vous avez des adversaires, je rajoute qui n'en a pas, vous avez des difficultés, il y a du circonstanciel, rien n'est simple, vous avez des adversaires, réjouissez-vous, c'est bien la preuve que vous êtes sauvés, sinon on ne s'en prendrait pas à vous, c'est bien la preuve qu'ils sont perdus. Donc, ce qui préoccupe Paul avant toute chose, c'est toujours ce que les disciples n'ont pas ce qu'ils ont, non pas ce qu'ils possèdent, non pas leur confort, non pas ce qu'ils font. Ce qui préoccupe Paul, c'est toujours leur caractère, leur maturité spirituelle, leur ressemblance à Christ. Et dès le début de l'épître, je ne l'ai pas mis ici, mais vous prenez chapitre 1er, versets 9 et 10, pour ceux qui ont leur Bible ouverte, l'apôtre Paul commence tout de suite, il dit « Ce que je demande dans mes prières pour vous, Philippiens, c'est que votre amour augmente de plus en plus. » Voilà ma prière, parce que je me soucie de, non pas de ce que vous êtes, ce que vous possédez, je me soucie de ce que vous êtes. Et que voilà ce qui préoccupe mes pensées pour que vos yeux se fixent sur le modèle et que vous calquiez vos vies sur ce modèle. Quelque chose de très intéressant, quand on gratte un peu le texte en profondeur, quand il leur dit « conduisez-vous », la racine de ce verbe, quand il dit en grec « politoumai », ça vient de « politesse », ES, en grec, habitant, le citoyen, qui vient lui-même de police, la cité, police, IS, parce que sur le site internet, dans l'audio, ils vont se dire c'est quoi la police, non, P-O-L-I-S, la cité, en grec. Le sens fondamental de ce que Paul est en train de leur dire ici, de ce verbe, c'est de se comporter, de se conduire comme des citoyens. Pour ceux qui ont la version Summer, vous avez ça en traduction. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ en vrai citoyen de son royaume. Quand Paul leur dit « politoumai », eux, ils ont tout de suite compris à quoi Paul fait référence. Nous, on va prendre 3 minutes pour décortiquer le contexte et comprendre cette histoire de citoyenneté. Il faut savoir qu'à l'époque, ça c'est pas dans votre Bible, c'est l'histoire profane qui nous le raconte, il faut savoir qu'à l'époque, la ville de Philippe, c'est une colonie romaine, et que les habitants de la ville de Philippe sont particulièrement fiers de leur statut de citoyen romain. Ça leur procure le fait d'être une colonie romaine, certes, il y a une forme d'envahisseur, il y a une autorité qui est là sur eux, plutôt de l'autoritarisme, mais ça leur procure beaucoup d'avantages. Ils ont, par contre là vous vérifierez acte 16, les gens de la ville de Philippe ont la citoyenneté romaine. Le fait d'être sous le joug de Rome, ça leur donne la citoyenneté romaine pour les résidents de la ville. Ils ont la citoyenneté romaine. Ils ont le privilège d'avoir recours à la loi de Rome. Il faut savoir qu'à l'époque, Rome, évidemment, est le plus grand empire qui soit. Et s'il a fait couler beaucoup de sang, croyez-moi, il a su s'installer et il a su attirer et acheter beaucoup de gens à sa cause. Donc ils ont beaucoup de privilèges en tant que citoyens romains. Et ils ont recours à la loi romaine, qui est considérée comme l'excellence, et ils vivent selon les principes de Rome. Et ils vivent, bien que loin de leur cité, loin de Rome, ils vivent en citoyens romains. Et ils sont très conscients de leurs privilèges, et ils en sont très fiers, ils sont fiers de leur statut de citoyen romain. Et on sait de par l'histoire que quand on était citoyen romain, attention, c'était pas rien. À un moment, vous relisez dans les actes, l'apôtre Paul, il va passer, je ne sais plus devant quel tribunal, il va dire « Attends, laisse-moi parler parce que moi je suis citoyen romain ». Et quand il dit ça, « Ah, vous êtes citoyen romain, allez-y, je vous en prie, expliquez-vous ». Parce qu'on ne touche pas à un citoyen de Rome. Et les Philippiens sont très fiers de leur statut de citoyen romain. Et par conséquent, ils mettaient un point d'honneur à vivre en citoyen de Rome. Ils mettaient un point d'honneur à ne rien faire, surtout ne rien faire, qui puisse salir l'image de leur souverain.
salir l'image de leur cité, ne pas la déshonorer. Ils ne voulaient pas perdre leur mode de vie, ils ne voulaient pas perdre leurs privilèges. Pour eux, être citoyen romain, c'est trop beau, c'est trop précieux, c'est trop extraordinaire. Et une fois qu'ils savent ça, une fois qu'on a compris ça, la pensée de Paul, politoumai, c'est comme s'il leur disait, voyez, Église de Philippe, si les habitants de la ville, les citoyens de Philippe, sont si dévoués à l'Empire romain, ce qui est injuste, terrestre, éphémère, passager, et c'est tyrannique, s'ils sont aussi fiers d'être dévoués à un empire humain, s'ils sont fiers de leur appartenance et qu'ils font valoir leurs privilèges, à combien plus forte raison, vous qui êtes les citoyens de la cité céleste, vous devriez être fiers de votre appartenance. Vous devriez réellement mettre un point d'honneur à vous conduire selon les principes de votre cité. Les citoyens de Philippe, qui sont donc citoyens romains, sont loin de Rome. Vous, Philippiens, vous êtes très loin, chrétiens, christiens, vous êtes très loin de votre cité céleste. Ils ont recours à la loi romaine.
Et alors ?
Vous avez recours à la parole et à l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Ils ont des privilèges de Romains. Vous avez accès à tous les privilèges. Le ciel vous est ouvert. Vous avez accès à tous les privilèges de la cité céleste pour vous. Par la foi.
À combien plus forte raison devriez-vous veiller, bien-aimés, à ne rien dire, à ne rien faire, qui puisse vous faire perdre vos privilèges, votre qualité de vie de citoyen du ciel. La pensée de Paul, si on va un peu plus loin, elle est encore marquée là au chapitre 3. Mais nous, notre cité est dans les cieux. 3, verset 20. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. C'est comme s'il leur disait, je sais, je vous en ai parlé de vos adversités, je sais. Vous avez des adversaires, je sais qu'il y a des épreuves, je sais qu'il y a des difficultés, je sais que rien n'est simple. Puis Paul, c'est comme s'il leur disait, vous n'allez pas m'apprendre à moi que rien n'est simple. Je sais que rien n'est simple, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Je sais que vous avez aussi des sujets à l'intérieur de l'Église qui vous préoccupent sérieusement. Mais n'oubliez pas, vous avez le privilège d'être citoyen du ciel. Faites bien attention à la façon dont vous allez parler, dont vous allez agir ou réagir, parce que vous avez beaucoup à perdre et vous avez beaucoup à maintenir. Et vous avez, en tant que citoyen, certes, accès à de grands privilèges dans le royaume de Dieu, mais vous avez aussi de grandes responsabilités et vous avez un combat à mener, parce que toute cité est menacée. Toute cité est menacée par des ennemis, des envahisseurs, par des tentatives d'intrusion. Alors vous avez un combat à mener, votre combat, c'est de mener une vie conforme aux principes du royaume des cieux. Parce que, eh oui, c'est logique Paul, tu as raison. Chaque fois que les citoyens de la cité céleste, qui vivent aussi sur une terre étrangère, bien loin de leur patrie, chaque fois que les citoyens des cieux vivent en dessous des normes divines d'amour, de paix, de pardon, de sainteté, de consécration, de vérité. Et ici, en dessous de la norme d'unité, l'Église est discréditée. Et elle ne peut pas être l'Église au sens où Jésus la pense. Ça va ? C'est pour ça aussi que dans ce passage, il va être question de combat. Il va être question de tenir ferme un même esprit, combattant d'une même âme. Parce que Paul va mettre en évidence, je vous le mettrai après, Paul s'inspire aussi, quand vous faites attention à ses épîtres, il s'inspire aussi souvent des athlètes ou des soldats.
Le monde sportif et le monde militaire sont des occasions pour lui de métaphores, d'allégories, pour véhiculer des enseignements spirituels. Et ici, il y a aussi combattant, il y a dans le verbe combattant, il y a l'image d'un soldat qui va défendre une ligne. Il va défendre une ligne, il va défendre une position à tout prix, coûte que coûte, peu importe ce que ça lui coûte, peu importe ce qu'il va y laisser, peu importe les coups qu'il prendra. Il est en train de maintenir une ligne de défense. Les anciens, vous avez connu la Grande Guerre et d'autres peut-être. Les soldats devaient maintenir la ligne et que l'ennemi ne passe pas, pas d'intrus. Donc c'est l'image d'un soldat qui va défendre, quel qu'en soit le prix, il va défendre une ligne de conduite, une ligne de défense à tout prix. Et cette ligne de défendue contre les ennemis, contre les tentatives d'intrusion, pour nous, pour eux, citoyens du ciel, c'est pas l'extérieur, c'est pas le plus grand danger pour les églises évangéliques en France aujourd'hui. C'est pas l'islam. Les plus grands dangers pour l'église de Jésus en France ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Ce sont des tentatives d'intrusion spirituelle. Et c'est là que nous avons, les uns et les autres, à différents moments de nos vies, de nos histoires d'église, nous avons laissé rentrer la querelle. L'intrus spirituel, c'est la querelle qui menace la paix. C'est un autre, le jugement, l'esprit de jugement qui menace la grâce, l'esprit de la grâce. Un autre, ça va être la rancune qui va menacer l'esprit de pardon. Puis vient un autre intrus qui s'appelle le compromis avec le péché et qui menace la sainteté si précieuse, si vitale dans l'église de Jésus. Et puis à un moment, ça va être la religiosité. L'esprit religieux qui vient, qui essaye de s'immiscer, sournois, insidieux, et qui veut tuer la ferveur dans les cœurs. Puis à un autre moment, c'est le mensonge qui menace la vérité dans l'église de Jésus. Ils sont là les intrus, ce sont ça les véritables ennemis, parce qu'ils sont spirituels, parce que tout ça c'est spirituel. Puis à d'autres moments, on dit « Ah oh, non, mais j'ai pas menti ». Ben non, t'as pas menti. Mais l'esprit insidieux de la duplicité, de l'hypocrisie, vient menacer la transparence et la sincérité. Et puis ici, l'orgueil, cet ennemi, cet intrus spirituel, vient menacer l'humilité, parce que sans l'humilité, l'Église de Jésus ne peut pas tenir. C'est le caractère de Jésus, c'est ce qu'il est, doux et humble de cœur. Alors, tous ces ennemis spirituels sont des principes charnels qui menacent la qualité de vie de l'Église et donc qui menacent l'unité si chèrement acquise parce qu'elle est acquise par Jésus à la croix et c'est ce qui fait qu'elle est si précieuse. Et parmi les ennemis possibles, l'apôtre Paul en met deux en lumière ici, l'esprit de parti et la vaine gloire. Il leur dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. En réalité, il y a deux ennemis spirituels ici qui sont, c'est pas écrit, mais je l'appelle comme ça, ce sont évidemment, hein, derrière il y a l'ego, il y a l'orgueil, qui sont des enfants de l'orgueil. L'esprit de parti et la vaine gloire, c'est tout le contraire du caractère de Jésus, c'est tout le contraire de l'humilité, et c'est ce qui va peser comme menace sur l'unité de l'Église de Philippe. L'esprit de parti, c'est pas compliqué, je vous l'ai mis ici, l'esprit de parti, certes, mais ce n'est pas seulement de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Le problème n'était pas seulement que des gens prenaient parti pour Évodie ou pour Saint-Tiche. Non, le problème allait plus loin que ça, parce que le mot « eritheia » en grec signifie littéralement « l'esprit querelleur ». C'est l'esprit de dispute qui va être traduit « eritheia » par « dispute » dans beaucoup de textes du Nouveau Testament, 2 Corinthiens 12, Galates 5, Jacques 3, etc. Je ne vous fais pas lire. C'est réellement un esprit de dispute, un esprit de querelle. Aussi, selon les aspects des textes, on trouve aussi un esprit de rivalité. C'est cet esprit de parti esprit de dispute, esprit de rivalité, dans l'église de Philippe, qui amenait les uns et les autres à se battre pour avoir le dernier mot. C'est cet esprit en moi, c'est plus fort que moi, j'aime bien avoir raison. Mais ça, c'est l'esprit de parti. Et ça, vous savez, bien aimé, c'est pour ça que Paul est direct. Vous remarquez que ce n'est pas un manque d'amour, mais il leur dit les choses telles qu'elles sont. Et il ne leur dit pas, vous savez, il faudrait pouvoir essayer. Non, vous êtes des citoyens du ciel, vous êtes des soldats. Il y a une église qui vaut tellement plus que ce que vous n'imaginerez jamais. Il faut la défendre et la protéger à tout prix. Le soldat, qu'est-ce qu'il fait? Je suis désolé, il fait ce qu'on lui dit. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ça doit disparaître. Sinon, vous ne pourrez jamais être unis comme Jésus l'entend. Parce que l'esprit de parti, ben ça commence déjà dans le couple. Il n'y a rien de tel que l'esprit de parti, le besoin d'avoir le dernier mot. Moi, je vous dis, dans mon couple, de toute façon, c'est réglé, il n'y a plus de problème. Parce que de toute façon, je termine toujours les conversations par « oui, chérie ». Non, c'est pas vrai. C'est pour vous détendre 2 secondes parce que je vous sens un peu tendu. Non, c'est pas vrai. On peut avoir des bonnes et des franches discussions et d'échanges, mais nous apprenons dans un couple, ben, on n'a pas besoin d'avoir le dernier mot. Bon, je ne fais pas une étude sur le couple, mais bon. Ça commence dans le couple, ce besoin d'avoir raison, ce besoin d'avoir le dernier mot. Il n'y a rien de tel pour diviser un couple, pour un foyer, pour une assemblée, pour une église. L'esprit de parti, c'est terrible. Et puis, la vaine gloire qui est liée, parce que ça va ensemble, ça vient de l'orgueil. C'est cette, pas seulement la gloriole humaine, mais c'est ce que les disciples avaient. Pierre, Jacques, Jean, ils avaient tout ça. Et on est tous comme eux, on passe par ces étapes et on doit identifier ces choses dans nos cœurs. Et on fait ce que Paul dit, on les dégage et puis point barre et on passe à autre chose. Et c'est cet esprit de supériorité qui est parfois bien dissimulé. C'est d'avoir une bonne opinion, une haute estime, une haute opinion de soi. C'est pas de ta faute, hein. Mais j'ai raison et t'as tort. Mais tu sais, hein, frère, t'inquiète pas, t'as le droit d'avoir tort, hein. Tout le monde peut se tromper. Hein. C'est cette estime de soi, cette conviction que forcément j'ai compris. Forcément j'ai raison. Mais en même temps, quand on réfléchit 3 minutes, même pas 30 secondes, ça fait 25 ans que je pense comme ça. Ma mère pensait comme ça. J'ai été éduqué par mon père comme ça. Ça fait 25 ans que le frère Intel me dit comme ça. Ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans que je pense comme ça. Forcément, je dois avoir raison. Ah mais mon frère, c'est pas parce que ça fait 40 ans que tu commets une erreur que c'est pas une erreur. C'est cette haute estime de soi qui amène aussi les disciples à nourrir des ambitions, à chercher une place, à se faire un nom. Seigneur, maître, tu ne peux pas nous refuser ça, Seigneur, disent Jacques et Jean. Nous voudrions être un à ta droite et un à ta gauche dans le ciel. Puis pour être sûr que le truc y passe mieux, ils envoient leur maman. La maman des fils de Zébédée, elle est venue demander, ça va peut-être attendrir Jésus si c'est la maman qui demande. Seigneur, pour mes petits, un à ta droite, un à ta gauche. Le Seigneur leur dit, mais vous ne comprenez pas, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Vous savez, vous ne comprenez pas que pour être élevé là où je vais être élevé, il va falloir être abaissé comme jamais personne n'a été abaissé. Avez-vous la moindre idée de la coupe que je dois boire maintenant pour entrer dans la gloire qui m'est réservée? Il est vrai qu'un jour alors ça c'est la honte. Vous boirez cette coupe. Bon, mais ce midi vous aurez un truc à raconter, hein, voilà. Il est vrai que, c'est pour mon humilité, il est vrai que vous boirez cette coupe, c'est vrai. Mais en attendant, vous ne pouvez pas me suivre sur ce chemin. Et ensuite, Jésus enseigne dans les épîtres, et Pierre le dira, Paul, Jacques, tant d'autres le diront, celui qui voudra s'élever sera abaissé. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que celui, dit Jésus, que celui qui veut être grand parmi vous, qu'il s'abaisse, qu'il soit le serviteur de tous. estime de soi, esprit de parti. Les ennemis spirituels qui menaçaient l'église de Philippe, tout l'inverse du caractère de Jésus. C'est comme si Pierre, c'est pas comme si Paul, pardon, Paul leur dit, vous avez un combat à mener. Votre combat, il est là. Votre combat, il n'est pas ailleurs. Votre combat, c'est de maintenir l'unité. Venez avec moi, je fais juste un petit détour, une confirmation. Éphésiens 4, et après, je conclurai et on partagera la scène ensemble. Dans un esprit, bien sûr, d'unité, en considérant nos cœurs, évidemment. Éphésiens chapitre 4. Vous allez voir que l'apôtre Paul fait ressortir les mêmes principes ici. À peu de choses près, Éphésiens chapitre 4, verset 1er. Je vous exhorte, ici ce n'est pas juste un encouragement, exhorter dans l'original c'est je vous presse, je vous supplie, vraiment c'est ça, je vous supplie. Moi le prisonnier dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Pareil, marcher, le comportement chrétien, une manière digne, une vocation, une mission, en toute humilité, ah on le retrouve, et douceur avec patience. Littéralement, ce qu'il va dire ici, c'est « vous portant
les uns les autres
par le dessous ». Ce n'est pas supporter au sens « il me fatigue, mais bon, il faut bien porter sa croix ». Non, ce n'est pas ça. C'est porter par le dessous. « Vous portant les uns les autres par le dessous, avec amour, vous efforçant de, non pas de créer, non pas de constituer, non pas de vous unir, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un Seigneur, une foi, un baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Amen. Et ici, simplement, rapidement, exhorter, je vous prie, je vous supplie, je vous presse, j'insiste, de marcher en toute humilité, c'est la même pensée, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Et là, c'est la même pensée qu'aux Philippiens, vous efforçant, on a parlé de ce soldat qui était amené, peu importe le prix, à défendre la ligne pour qu'il n'y ait pas d'intrusion qui menace l'humilité des membres et l'unité de l'Église. Vous efforçant, spoudadzou, qui signifie littéralement « s'appliquer, s'empresser ». D'autres versions de Bible ont traduit « vous appliquant ». Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit. Une autre version a traduit par « soyez soigneux, étant soigneux, vous apportez un soin particulier à garder l'unité de l'esprit, cherchez toujours à rester unis ». Mais vous voyez qu'à chaque fois, dans toutes les traductions, « conserver, maintenir, rester », il s'agit de conserver l'unité que Jésus nous a acquise de façon si précieuse, si chère à la croix. Ma conclusion, bien-aimée, c'est que, à la lumière de ces textes, la seule solution pour préserver l'unité, et ça concerne tous, parce que même si aujourd'hui, vous ou une autre église était une église parfaite, avec des membres parfaits, un pasteur parfait, jamais de différend, jamais de querelle, jamais un regard d'autre, des gens, ce message resterait quand même nécessaire et totalement valable, parce que l'apôtre Paul nous dirait, vous êtes comme ça? Vous êtes à ce niveau-là? Amen, c'est très bien. Soyez des soldats et n'oubliez pas que les tentatives d'intrusion, parce que nous sommes dans une guerre spirituelle et les ennemis sont spirituels. Et n'oubliez pas que ces tentatives d'intrusion viendront tôt ou tard. Elles sont déjà venues. Elles viennent, elles viendront encore parce que c'est le style de notre ennemi. Tout a été dévoilé. Quand il ne peut pas détruire une église, par un moyen, il passe par un autre. Et puis c'est là qu'il y a des choses qui sont excitées, des anciens traits de notre vie avec Dieu, sans Dieu, pardon. Et puis ces côtés charnels, immatures, enfantins, etc., charnels, qui font que ces choses-là viennent de façon pernicieuse, insidieuse, sournoise. Et puis elles commencent à faire des dégâts dans le cœur des uns et des autres. Et puis ça fait des dégâts dans l'église. Et l'église, quand le Saint-Esprit la regarde, c'est pas qu'il l'aime plus, mais l'esprit est une colombe. Et vous savez, une colombe, le Saint-Esprit ne part pas de son église. Mais une colombe, c'est fragile. Et il faut pas grand-chose pour l'effaroucher. Alors l'esprit est attristé, c'est pas qu'il n'est plus là, c'est qu'il est triste. Et il ne peut pas donner la pleine mesure de ce qu'il est. L'unité de l'Église, n'oublions jamais, l'unité, c'est la nature de Dieu. Alors la seule solution pour préserver cette unité, c'est que les citoyens du ciel que nous sommes vivent ce principal trait de caractère du Seigneur et donc du caractère chrétien, l'humilité. C'est comme si Paul leur disait, je veux que chaque bien-aimé, les yeux fixés sur le modèle suprême, pratique ce modèle, respectent, pratiquent, reproduisent le modèle de leur souverain, parce qu'un disciple, au final, ne peut pas pratiquer un autre chemin que celui de son maître. Jésus, doux et humble de cœur, s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé lui-même volontairement pour ton salut. C'est le prix de ton âme et c'est le prix de l'âme qui est à côté de toi. C'est le prix que Jésus a payé pour créer l'unité. C'est trop beau, c'est trop précieux. Jésus s'est humilié, il s'est abaissé pour la vie et l'unité de l'Église. Maintenant, c'est à l'Église de vivre dans cette humilité, dans cette unité, pour qu'elle puisse tenir. C'est par l'humilité de Jésus que l'unité a été créée. C'est par l'unité, l'humilité et l'unité des membres de l'Église que l'unité va être maintenue et que l'Église va pouvoir tenir. Mon frère, ma sœur, toi comme moi, nous sommes citoyens du ciel. Cette unité, à toi de la préserver. C'est à toi, c'est à moi d'en prendre soin. C'est à toi, c'est à moi de faire mourir en moi, dans mon cœur, les ennemis spirituels qui menacent l'unité de mon Église, unité qui a été si chèrement acquise par Jésus à la croix. Voilà la mission des soldats du ciel que vous êtes. Alléluia. Amen. On prie ensemble, on se recueille, bien-aimés. Un instant, merci, soyez bénis. Seigneur, merci pour ta fidélité, ta grâce. Merci pour le don parfait, suprême de Jésus. Seigneur, tu as tout accompli. À la croix, ton côté a été percé. Du sang et de l'eau en sont sortis. Symbole de la naissance, c'est le prix que tu as payé pour que